Actu SF, les podcasts.
C'est une très bonne question. J'ai commencé à lire très tôt. J'ai commencé par la fantasy et c'est ensuite seulement après que je suis arrivé à la science-fiction. Et donc c'est pour ça que je pense, en tout cas, que je me suis mis à écrire de la fantasy.
Oui. Ah. Okay. It was only later I went back and read more science fiction novels because I hadn't read many until I was much older. So now I've read people like Asimov and Kurt Vonnegut, other people I've just forgotten at the moment. Fahrenheit 451 by Ray Bradbury, things like this, classics that I missed when I was younger, but now I've gone back and read them. Maybe I'll write sci-fi one day. I have some ideas, but at the moment I'm sticking to fantasy.
C'est seulement plus tard en fait que je me suis mis à lire des romans de science-fiction. Je pense à des noms comme Asimov, Kurt Vonnegut, d'autres personnes aussi comme Ray Bradbury. C'est des choses que j'ai lues quand j'étais plus jeune. Alors je les ai relues aussi un petit peu plus tard. Peut-être qu'un jour j'écrirai de la SF.
Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que dans cette première trilogie, c'est extrêmement structuré. C'est très impressionnant. Alors, est-ce que vous aviez tout le plan en tête avant de commencer à écrire, ou est-ce que c'est au fur et à mesure que vous l'avez bâti? Parce que vraiment, c'est très frappant. Il y a une progression dans la narration.
It was. I plan all my books. I plan them from. I know the beginning, the middle, the end. And various milestones along the way, so I know where the books are going, but I don't always know how I get from one milestone to the next. That's where the creative part comes for me, and the adventure, I guess. But I did know all three books, what the plan was for each from the beginning, because they're all quite different. It's not a standard trilogy, and I told the publisher, are you sure? There's not a stand? And they said, no, it's okay. So that's what we did for the first three books.
J'avais prévu à l'avance tous les livres, la structure générale, j'avais le début, le milieu, la fin, et ensuite j'avais des points particuliers par lesquels je savais qu'il fallait que je passe, et par contre je ne savais pas comment aller d'un point à un autre, et c'est là que pour moi arrive la partie la plus créative, l'aventure en fait. Maintenant, pour chaque livre en lui-même, j'avais pas déjà tout prévu pour chacun des livres, et mon éditeur m'a demandé, t'es sûr que tu veux faire comme ça? Et moi je dis oui, bien sûr, et en fait, du coup, on a effectivement fait comme ça.
Oui, parce qu'il faut dire que chacun des trois livres se déroule dans un lieu différent, et cela répond à la logique de la guerre générale, donc c'est effectivement très inhabituel par rapport à d'autres romans. Alors peut-être, Stephen, pour les personnes présentes qui n'ont pas encore lu votre livre. Alors peut-être pourriez-vous définir, faire une présentation très générale de l'environnement et de ce qui se passe lorsqu'on commence la trilogie.
So the first book begins in a world where magic has gone through a golden age, and now we've come to a place where it's starting to die, but it's still very, very powerful. Those who have magic are in great need. In the first book, a war is beginning, and the enemy who is coming to invade have mages, and so the king calls upon anybody who has magic to come and help him, because otherwise the war would be over very, very quickly, because mages are, despite their crude abilities, are very powerful.
Oui, donc dans le premier livre, on est dans un dans une période en fait où la magie a connu un âge d'or, mais là elle est plutôt en train de mourir, mais elle est toujours très puissante. Et donc dans Mage de guerre, il y a une guerre qui commence, et justement le pays qui se défend appelle des gens qui ont des talents avec la magie, parce que sinon malheureusement la guerre se terminerait très vite, et donc ce sont des mages très puissants qui ont des pouvoirs assez dévastateurs.
Alors, justement, peut-être peut-on parler de ce mage de guerre qui est le personnage central, en fait, de la trilogie, qui est Balfrus. Donc, peut-être pouvez-vous nous le présenter un petit peu.
Balfrus. Bonjour. Bonjour. Balfrus is a middle-aged, balding man when we meet him in the first book, so he's somebody who's had a good portion of his life beforehand. He's quite knowledgeable in magic, and he comes as this sort of important figure to help the king in the war, and other mages join from all over, and they're all quite different, and they sort of look to him as their leader because of his knowledge.
Donc Balfrus, c'est un homme qui est déjà à un âge, alors pas forcément avancé, mais on va dire autour de la cinquantaine, quelqu'un qui est un peu en train de perdre ses cheveux, donc voilà, pour le situer un petit peu. Et donc il a une bonne portion de sa vie qui est déjà passée, il connaît beaucoup la magie, et donc il vient répondre à l'appel du roi pour aider dans la guerre, et comme il est très puissant et qu'il connaît beaucoup la magie, tous les autres mages le voient un petit peu comme leur leader.
Alors, ce que j'ai trouvé aussi extrêmement frappant dans votre trilogie, c'est que, bon, Balfrus, on vient de le dire, est un homme. On est dans des royaumes et où la plupart de vos personnages sont des femmes. La plupart des caractères des personnages principaux sont des femmes, et des femmes, de fortes femmes, fortes au sens psychologique du terme, hein. Je pense à des gens comme Héloïse, comme Monroe, comme Tammy Parker, etc. Ce sont principalement des femmes. Balfrus est entouré de beaucoup de femmes, finalement.
He has a lot of women friends, yes. Typically, in fantasy, the balance is off. There's usually lots of men characters and not enough women. And the women characters are very badly created. They're very caricatures that could be men. You've just changed the name. And all my life, I've had very strong female characters in my life. So my great aunt was a very big influence on me. My mother, very big, strong influence. And both these women have done many great things in their life. So they were a big influence and inspired me to create more realistic women. So Balfrus is the main character, but all of the others have very important roles, as you mentioned, the few that you mentioned.
Oui, donc Balfrus, effectivement, a beaucoup d'amis dans la gente féminine. C'est vrai que dans la fantasy, on a plutôt l'habitude d'avoir un équilibre défavorable, donc qui va plutôt aller en faveur des hommes. Et les personnages féminins qu'on a sont pas vraiment très bien réalisés, c'est plutôt des caricatures. En fait, ça pourrait tout à fait être des hommes, il suffirait de changer le nom, hein, et puis ça serait la même chose. Voilà, c'est en fait, moi, dans ma vie, j'ai été entouré de femmes assez fortes. Je pense par exemple à ma tante, à ma mère, ma tante qui était un personnage très fort, ce sont des femmes qui ont accompli beaucoup de choses incroyables, et en fait, ça m'a inspiré. Donc, c'est vrai que Balfrus est un personnage important, mais tous ces personnages féminins autour de lui le sont également.
Alors, justement, vous avez fait référence là au fait que beaucoup de personnages féminins en fantasy sont presque caricaturaux. On pourrait dire d'ailleurs la même chose souvent des personnages masculins, hein, des gros bras, une grosse épée et une petite cervelle. justement, vous, vous prenez tout cela. Alors, c'est l'un des grands intérêts de cette trilogie, c'est que vous prenez cela à contre-pied et que tous vos personnages, y compris les personnages secondaires, sont très fouillés psychologiquement. On sait d'où ils viennent, on comprend d'où ils viennent, pourquoi ils réagissent de cette manière. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que confrontés aux événements, on voit leur on suit leur évolution psychologique à travers le balfrus de mage de guerre n'est plus du tout le balfrus de mage du chaos.
So all of the, as you say, all of the characters change over the course of the books. In fantasy, some series, events make the world, they don't change after events, they stand still, they don't evolve, and I wanted to make sure, as well as the world evolving, the characters evolved in a realistic way according to what's happened to them. So the first book is a war. It's not a spoiler to say at some point the war ends, but after that it's okay, so what is the impact on people from the war, realistically thinking in modern terms, how would it affect somebody, and I try to portray that in all of the characters, think about realistic impacts.
Oui, donc comme vous dites, effectivement, tous les personnages changent. Moi, ce qui m'intéressait par rapport aux autres séries de fantasy, c'était de faire évoluer mes personnages en fonction des événements qui avaient lieu dans le monde. Et je voulais montrer un petit peu un impact réaliste de la guerre sur les personnages. Et c'est ça que j'ai essayé de coucher sur le papier.
Et alors justement, vous venez de le dire, On débute avec la guerre, c'est pas un spoiler, un match de guerre, c'est qu'il faut, il faut qu'il intervienne. Et là, on a parlé des, entre guillemets, les gentils, quelque part, les bons personnages. Mais dans chacun de vos livres, bon, et sans s'étendre trop pour pas là non plus spoiler, leurs ennemis, leurs antagonistes sont aussi des personnages extrêmement forts. Et très fouillé psychologiquement. Alors, je pense par exemple, justement pour pas trop spoiler, on peut quand même parler de Tycon, le roi fou.
Yes, in the first book, the main villain, I guess, is a guy called the Mad King. But you begin to find out, as the story goes on, that in his own way, he's a puppet for someone else. And he has set himself up as a prophet, according to religious text, and a great man. And it's never clear at the beginning if he believed it himself, but by the end he starts to believe, as the story goes on, he believes his own propaganda.
I'm challenging you, Matt.
What is it in French?
Propaganda.
Damn it.
Duplicitous. Yeah, so he begins to believe his own propaganda, and he is a simple character in some ways, but he's also quite childlike because he's being manipulated. So there are other people controlling him.
Donc dans le premier livre, le principal méchant, si on peut dire ça comme ça, c'est effectivement un personnage qui s'appelle le roi fou, Tycon. Mais en fait, on se rend compte au fur et à mesure qu'on progresse dans le livre que ce n'est qu'une marionnette. Et il s'installe, en fait, il se crée ce personnage, en fait, il fait comme s'il était un prophète en fonction de Saintes Écritures. Et au début, on n'est pas sûr qu'il croit vraiment à ce qu'il dit. Mais en fait, plus on avance vers la fin du bouquin et plus on se rend compte qu'effectivement, il commence à croire à sa propre propagande. Et donc, voilà, c'est un personnage assez simple, mais qui en même temps est assez enfantin dans l'esprit et qui est manipulé par d'autres personnes.
Cela dit, il a des excuses pour croire à sa propre propagande, puisque par exemple, que lorsqu'il prêche auprès des gens, etc., il est capable par exemple de se blesser, et les gens voient que la blessure se guérit instantanément. Ça, quand on fait ça, on peut y croire soi-même.
Yes, yes, as you say, he starts to believe it himself, and it's like the Christ and being able to the resurrection and that sort of thing. That's where I got the ideas from.
Oui, oui, bah, comme c'est effectivement ça. C'est comme on le disait, hein, voilà, il commence à y croire lui-même, et c'est un petit peu comme l'histoire de voilà de la résurrection du Christ, hein, tout simplement.
Alors, ça nous amène à un point qui est central, en particulier dans le premier roman, mais qui se poursuit dans le reste. Et là encore, on ne peut pas trop en parler sans spoiler, mais le rôle de la religion est quand même fondamental à travers vos livres, en particulier dans le premier, puisque on utilise le fanatisme religieux.
Yes, so there's the Mad King, who is the prophet, but also in my book, it's not really a spoiler to say there are people walking around who are not human; they are gods walking around, and you don't know who they are. But there again, power and belief is incredibly important to them, because the more followers they have, the more power they have. So they have an interest in the war and its outcome. And there again, they are marionette pulling strings. I'm learning.
Oui, donc effectivement, il y a ce roi fou qui est effectivement donc en position de prophète. Et je pense que c'est pas vraiment des spoilers de le dire, donc je vais quand même en parler. C'est vrai qu'il y a des gens, en fait, des personnages qui marchent parmi les hommes, mais qui sont en fait des dieux. Et on ne sait pas vraiment qui ils sont, ce qu'ils veulent, mais ce qu'on sait par contre, c'est qu'ils ont un intérêt à tirer de la guerre parce que voilà, ils tirent leur puissance de leurs fidèles, en fait.
Alors, bon, je voulais pas trop aborder le problème des dieux, justement, parce que j'avais peur de spoiler, mais puisque vous, Stephen, vous le faites, je me sens très à l'aise pour dire que, alors, justement, j'évoquais la psychologie tout à l'heure, vous faites aussi partie de ces gens qui étudient et développent dedans la psychologie des dieux, et il y a un aspect qui est extrêmement en fait curieux, vous venez de le dire. Les dieux tirent leur puissance du nombre de fidèles qu'ils ont. Plus ils ont de fidèles, plus ils sont puissants. S'il n'y a plus personne dans les temples, ils ne peuvent plus rien faire. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'on voit à travers, quand ils se réunissent, etc., qu'en fait, ils sont complètement désarçonnés par l'évolution de l'espèce humaine. Ils sont là, ils regardent et ils ne comprennent plus rien.
Yes, they are part of the world, and yet they're sort of separate from it, and they don't know how to cope with humans, because we're always changing and evolving, and they are behind in some ways, a bit sort of backwards thinking. I'm trying not to spoil things. There's a rule that they're not supposed to get involved and influence things, but if you want to be on the winning side of the war and you'd get more followers, then it can be very tempting. And so there's conflict between the gods in the books to try and stop each other doing too much involvement with the war. No. That's it. No more spoilers.
Oui, parce que bon, voilà, ils font partie de ce monde, mais en même temps, ils en sont un petit peu distincts. Ils savent pas trop quoi faire de cette race humaine, parce que c'est vrai qu'on change, on évolue. Et normalement, ils ont une règle qu'ils ne sont pas supposés avoir une influence sur le déroulement des événements auprès de l'humanité. Mais en même temps, c'est vrai que ça a un gros avantage d'être du côté des vainqueurs après la guerre, parce que si on est du côté des vainqueurs, on a plus de fidèles, et du coup, on a plus de pouvoir. Il y a donc cette espèce de conflit entre les dieux, voilà, mais je vais pas trop en dire plus parce que j'ai pas envie de spoiler, mais il y a un conflit entre les dieux pour évidemment éviter que certains arrivent à avoir plus de pouvoir que les autres.
Alors, on peut aussi parler, je pense, parce que c'est important, ça façonne tout l'environnement de la trilogie, c'est le rôle de la magie, parce que la magie dans ce monde, c'est ce qu'ils appellent la source, et c'est une sorte de, comment dire, d'énergie qui se trouve partout et dans lequel beaucoup de gens peuvent, de manière plus ou moins puissante, en tirer de l'énergie pour eux, leur pouvoir.
So the start of the first book, magic is used in the war in very powerful ways, but it's very crude. But as the series goes on, it's not a spoiler to say you meet other characters who have magic that is much more subtle, because there's something called talents, which is like an innate skill you are born with. A certain, it could be a very, very small type of magic, but if someone can use it in a certain way, it can help them very much in their life. And as we go through the book, I start with the very loud magic in the war, big stuff, and we explore other facets of magic in the rest of the series. I'm going to hear what you say now for facets, en français.
oui, donc quand on démarre le premier livre, en fait, la magie est utilisée à des fins guerrières, donc pour la guerre. C'est une forme de magie qui est assez brute en soi. Et puis en fait, après, quand on lit les prochains livres, on se rend compte qu'il y a des formes de magie un petit peu plus subtiles qui sont conditionnées en fait par un certain talent, parce qu'on voilà, on doit être né avec. Pour il y a certaines formes de magie qui permettent voilà de soutenir la vie. En fait, au fur et à mesure qu'on progresse à travers les livres, on explore plusieurs facettes de la magie.
Alors, on a beaucoup parlé de la psychologie des personnages. On a beaucoup parlé de la psychologie des personnages parce que pour moi, ça fait partie des grands intérêts. Là, on comprend les personnages. Mais quelque chose qui m'a aussi énormément frappé et qui rend cette trilogie très différente de beaucoup d'autres livres, de beaucoup d'autres romans de fantasy, c'est que vous penchez aussi, vous êtes le premier à ma connaissance, à vous pencher sur la psychologie des foules, le rôle que peuvent avoir, vous avez parlé de propagande tout à l'heure, mais donc la manière dont les croyances générales peuvent être manipulées et comment aussi les gens ressentent à un niveau collectif les effets, par exemple, de la guerre. Ça, c'est très frappant, on voit une évolution et vous êtes le premier, à ma connaissance, à faire ça.
Merci. Merci. I'm very interested in psychology, and I think I said this earlier to you, that the impact of the war on people, because we see Balfrus in all three books, and I know people who've been in the army and navy, and the impact of conflict on them is very important to me. There are some characters in the book who have mental health problems. There again, I explore this as well. Everyone talks about fantasy being, some people view fantasy as silly and they don't think it's quality fiction. Even in England, we get people that are very, I've got a good word for you, very snooty about it.
Okay.
I'll let you think on it. They look down their noses at it. They look down their noses on, look down on fantasy. Okay, I got you. But for me, fantasy is a mirror to hold up to the world, to talk about all sorts of issues, whether it's religious, politics, psychology. The use of power is a big theme in the first book.
Oui, je suis très intéressé par la psychologie. C'est vrai que je crois que, voilà, je vous en parlais l'autre jour. Je suis intéressé par l'impact que la guerre peut avoir sur les gens. C'est vrai qu'on suit Balfrus à travers les trois livres. Moi, je connais des gens en fait qui ont été militaires, qui ont vu la guerre et qui en sont revenus avec les conséquences psychologiques que ça implique. Et c'est vrai que voilà, même plus tard, j'ai des personnages secondaires qui en fait ont des problèmes mentaux et j'aime beaucoup explorer ça. C'est vrai que on reçoit souvent cette idée que la fantasy c'est quelque chose de stupide, voilà, les gens regardent ça un petit peu de haut. Mais pour moi, c'est un miroir qu'on tourne vers le monde et ça permet de confronter toutes sortes de problèmes. Et c'est vrai que voilà, pour moi, par exemple, aussi le pouvoir est un grand thème, notamment dans, dans mon premier livre.
Très bien.
C'est vrai, mais ce qui est frappant, c'est qu'on voit... les impacts, par exemple, dans le troisième, alors là non plus sans spoiler, comme nous l'avons dit au début, chacun des trois romans se déroule dans un lieu différent. Et dans le troisième, ça se déroule dans l'ancien royaume de Shael, qui est celui qui avait résisté au roi au début de la guerre, ne voulait pas lui rentrer dans cette croisade de fanatiques religieux, et donc a été puni et a été transformé en une sorte de gigantesque camp de concentration et d'extermination pendant plusieurs années, alors que c'était en plus le royaume le plus cultivé de tous, royaume des arts de la, et un royaume d'intellectuels. Et là aussi, vous montrez l'impact que ça a, y compris sur les, sans que ce soit péjoratif, les petites gens, les gens du peuple.
So yeah, in the third book, they visit this country that, as you said, had good, very good culture, and it's been reduced to a sort of wasteland. The story takes place, it's not a spoiler to say, it takes place in one city that's been ravaged and destroyed, and people are just trying to survive. So it allows me to tell a very different story to what I've done before. In each book, it's very different, and when even in the new trilogy, I'm not a spoiler to say, they're still feeling the impact of the war, because it's not there again. It's I want the world to constantly evolve. I don't want them to say, oh, the war was a few years ago. It's all fine now. Everything's rebuilt and everything's back to normal. And let's go and have a fun adventure. So it's keeping it realistic.
Oui, donc dans le troisième livre, effectivement, on visite cette région de Shael qui, comme vous l'avez dit, avait une grosse importance culturelle et qui en fait a été réduit à une sorte de terre désolée. Et donc l'histoire, c'est pas un spoiler de le dire, hein, l'histoire dans ce troisième livre se déroule en particulier dans une cité qui a été ravagée, détruite, dans laquelle les gens maintenant sont en train de survivre plus qu'autre chose, et ça m'a permis de raconter une histoire différente. Et d'ailleurs, dans ma nouvelle trilogie, je voulais continuer à explorer l'impact de la guerre. Je voulais pas que, voilà, 3 ans après, les gens se disent, oh bah c'est bon, la guerre c'était il y a 3 ans, on n'en parle plus, et puis hop, c'est bon, on part sur une aventure, etc. Je suis plus intéressé par l'évolution que ça implique.
Oui, justement, dans Matchborn, qui est le premier volume de la nouvelle trilogie. L'action se passe 10 ans plus tard, et justement là aussi on voit l'impact qu'a eu cette guerre et ses effets psychologiques ensuite sur l'ensemble des foules, puisque là non plus c'est pas un spoiler, mais disons que le prémisse, c'est que les gens maintenant ont peur de la magie, ne se souviennent plus des bienfaits de la magie, simplement ils se souviennent de l'aspect maléfique.
So in the first book, with the war, people are using a lot of magic on both sides. And by the time we get to the fourth book, people just remember all of the destruction caused by the magic. They don't think of the lives that were saved by mages working and fighting very, very hard. They just see broken buildings and graves and think magic is dangerous and it should not be tolerated. And they want to get rid of it in the fourth book.
Oui, dans le premier livre, effectivement, donc il y a cette guerre dans laquelle on utilise la magie des deux côtés. Et dans le quatrième, en fait, tout ce qu'on voit, c'est la destruction que ça a apporté. On ne pense pas une seule seconde au nombre de vies qui ont été sauvées. Tout ce que les gens voient, c'est les bâtiments qui ont été détruits, le nombre de tombes. Et donc, il y a une sérieuse discussion sur la possibilité de carrément se débarrasser de la magie.
Alors, il me semble aussi qu'il y a un autre message très intéressant qui se dégage à travers cette première trilogie, qui est que il y a une dualité, pourrais-je dire, des bienfaits que peut apporter la connaissance. D'une part, il faut, plus on est cultivé, plus on peut avoir donc l'esprit qui se développe, mais vous montrez, et là aussi sans qu'on rentre trop dans les détails, qu'en fait, lorsqu'on veut avoir la connaissance quasiment à tout prix et le maximum de connaissances, qu'on veut, finalement, c'est aussi négatif que des gens qui sont d'une ignorance totale.
There's the old English saying, you probably have the same in French, power corrupts and absolute power corrupts absolutement. Pretty good?
Yeah. Power corrupts and absolute power corrupts absolutely. You say power corrupts and absolute power corrupts absolutely.
Sorry. So a lot of power is very dangerous and corrupting, and that's a message there again I want to take through with the book, with the psychology of it. So in the first book, with the war, there's a lot of power being thrown around, and it has a big impact on the people who see it, how it's being used, but also the people wielding it. Some of the majors want the power, others, you're born with it and they don't want it, they can't get rid of it, and yet they have to do something with it, and it has a great impact on them throughout their lives.
Il y a cette vieille expression anglaise qui dit le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Thank you. donc beaucoup de pouvoir, oui, beaucoup de pouvoir, en fait, c'est quelque chose qui est effectivement très dangereux, et ça a un énorme impact sur les gens qui le voient en action, mais aussi pour ceux qui le manipulent. Et d'ailleurs, on en a certains qui sont nés avec et qui savent pas quoi en faire. En fait, qui préféreraient s'en débarrasser, et ça a un énorme impact sur leur vie.
Alors, dans le premier volume de votre nouvelle trilogie, la Matchborn, l'un des écueils auxquels se heurtent donc Balfrus et les magiciens, c'est donc, comme vous l'avez dit, que maintenant les gens ont peur de la magie. 10 ans plus tard, on ne se souvient que du mauvais aspect de la magie. Et donc, une partie du roman consiste, ils se demandent comment ils vont faire pour réussir à renverser un petit peu le courant. Alors, est-ce que ça vient aussi du fait que vous avez travaillé, je crois, dans le marketing? Donc, comment est-ce qu'on va vendre la magie à nouveau?
I'm not. yeah, I do work in marketing. I guess I spend a lot of time thinking about the books and the world and the characters, and magic is such an important part of all of the books, but it has to evolve as well with the story. And when it comes to the new trilogy, as you said, they only remember the bad side of it, and magic could be used as a metaphor for something else. It could be religion or particular politics that people don't like, and it's how do people react to something that they dislike so much, how would they deal with it, and if they want to get rid of it, to what lengths will they go, how far will they go to get rid of it. And that's sort of something I explore with the new trilogy.
Oui, effectivement, je travaille dans le marketing, donc voilà, je passe effectivement beaucoup de temps à réfléchir au sujet de la magie, mais voilà, ça, tout doit aussi tourner autour de l'histoire. Et dans cette nouvelle trilogie, effectivement, on voit plus les mauvais côtés de la magie. Et en fait, la magie peut être une métaphore pour beaucoup d'autres formes de pouvoir, comme la religion, la politique. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'étudier comment les gens réagissent, comment est-ce qu'ils s'occupent de la magie, ou jusqu'où ils sont prêts à aller pour s'en débarrasser. Et c'est ça que j'essaie d'explorer dans la nouvelle trilogie.
un autre aspect aussi qui est tout à fait intéressant, que comme je l'ai dit, vous vous intéressez beaucoup au peuple et aux conséquences que peuvent avoir la guerre, les effets de la magie, etc. sur le peuple, et en particulier l'impact que ça peut avoir, et je pense là au deuxième volume, l'impact que ça peut avoir sur toutes les familles mafieuses et le monde du crime. Et ça aussi, ça me semble tout à fait intéressant.
Yes, so the second book is set in a city where it deals more with crime, policemen and crime families. And there again, think about criminals and crime families. How would they use magic if they could? Subtle and small magics for their own benefit. And one of the characters works with the crime families, and she has some magic. And it's very different, again, from the magic in the first book. So it's just not doing the same thing over and over and over again. I never want to write the same book twice with magic the same.
Oui, donc dans le deuxième livre, on est confiné dans une cité, enfin dans une ville, et donc là, on est plus dans un contexte voilà de crime avec un policier et notamment des familles du crime et comment est-ce qu'elles se servent de la magie pour leurs propres bénéfices. Voilà, c'est des formes de magie qui sont un petit peu plus subtiles, moins présente peut-être, moins importante. Et donc il y a un de mes personnages qui travaille pour les familles du crime. Et c'est vrai que c'est une utilisation vraiment différente par rapport au premier livre, parce que j'ai aucune envie d'écrire le même livre à chaque fois, j'ai envie de changer.
Oui, vous faites, en fait, comme on est dans trois lieux différents et avec des personnages qui pour certains sont complètement différents, découvrent de nouveaux personnages, et c'est ce qui fait aussi la richesse de votre trilogie, c'est que de plus en plus de personnages viennent, apparaissent, et qu'ensuite leurs destins s'entrecroisent, et effectivement on en retrouve certains 10 ans plus tard, et on voit comment ils ont évolué, etc. Ça c'est tout à fait passionnant. Mais alors j'ai quand même une question, parce que vous traitez beaucoup de personnages. Est-ce que vous avez une affection particulière pour l'un d'entre eux?
That's like trying to choose my favorite child.
Ça, en fait, ça revient à me demander de choisir mon enfant préféré.
No, I can't choose one. I can't choose one because I spend so much time with all of them in my head. When I wrote the new trilogy, when I was planning the new trilogy, I thought, whose story is over, whose should continue, and that's when I started thinking, well, I want to see more of this character or that character, and I just had to go through all of them in my head and think, okay, whose story is over and who's not? Who do I want to see more of? And I knew people all wanted to see Balfrus come back. Everybody asked for him. And I thought, well, his story is not done, so he came back, plus others and new characters.
Bah, oui, je peux pas en choisir un en particulier. Hein. Je passe tellement de temps avec tous dans ma tête, avec tous ces personnages. Donc quand j'ai commencé à créer la nouvelle trilogie, je me suis posé la question, voilà. Quel personnage devrait voir leur histoire se terminer et quels autres personnages devraient plutôt continuer à être présents. Et donc, je les ai tous passés en revue et je me suis dit, bah voilà, pour quel personnage on aimerait en voir plus. Celui qui revient assez fréquemment, qu'on me demande, c'est Balfrus. Donc, effectivement, Balfrus, son histoire n'est pas terminée. Donc, voilà, ça continue pour lui. Mais il y a aussi des nouveaux personnages.
Mais effectivement, il fallait qu'on sache là ce qu'était devenu Balfrus, qu'il avait fait pendant les 10 ans où il était parti. Et on commence à avoir des éléments de réponse. Donc ça c'est très bien. Alors j'ai une autre question pour vous, parce que j'ai cru comprendre, Stephen Aryan, qu'il y avait des petits clins d'œil de temps en temps dans vos livres. Et vous m'avez dit qu'il y en avait entre autres un dans le deuxième volume. Nage de sang. Alors, moi, ce qui m'a, il y a une chose qui m'a un tout petit peu interpellé quand je l'ai lu, c'est un de vos personnages s'appelle Tammy Parker. Et est-ce que c'est une référence, un clin d'œil à l'évangéliste qui à la télé-évangéliste qui chantait aux États-Unis, vu?
No, someone else. It is a reference to a character. The physical look of the character and the name is very similar to a character from comics that comic books that I've read and loved for maybe 20 years. Do you want me to tell you who it is? Do you want me to tell you who it referenced to? So there's an American artist. He does the art and the writing, called Terry Moore. And it's in reference to a character from his comic books that's called Strangers in Paradise, is the comic book. And the character, like Tammy, is a large, strong woman, long blonde hair, a similar name. But a good guess.
Non, c'est pas ça, c'est quelqu'un d'autre. En fait, par contre, c'est bel et bien une référence. Voilà, la façon, enfin, le nom, son nom et son apparence, ce sont une référence à un comics en particulier que je lis et que j'adore depuis 20 ans. C'est l'artiste américain Terry Moore qui s'en occupe et moi j'écris. Et c'est dans le comics Strange's Paradise. Le personnage est assez similaire. C'est une femme qui est assez imposante et forte, mais en tout cas bien essayée.
Bien, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Je ne sais pas si vous avez une question, peut-être un point particulier qui vous aurait intrigué parmi ce qu'on a dit et que vous aimeriez voir développer. Dans ce cas-là, alors, moi, j'ai une dernière question, quand même, très, très fondamentale. C'est que j'ai vu que vous étiez un grand amateur de bière et aucun de vos personnages, quasiment, ne boit de bière. Il commande toujours du vin. Pourquoi ?
All the soldiers drink beer. In the first book, because they're soldiers, that's what they do. I know a lot of people in the army and navy, and they're very simple men, simple and women, simple drinks. but my wife, she likes wine. She's the wine expert, not me. I know nothing about wine. And she it must have just her influence on me. But there's a lot of stuff in fantasy that the more educated the person, the more educated the palate, so they drink wine because it's more expensive and they have more money. So some characters drink wine, but the rough soldiers, beer. Okay. But I love beer. I brewed my own beer as well for Mageborn.
Oui, non, il y a quand même les soldats hein, qui boivent de la bière du coup dans le premier livre. Je connais des gens en fait qui travaillent dans l'armée et donc c'est vrai que voilà, des gens simples pour une boisson simple. Par contre, ma femme aime beaucoup le vin. Voilà, c'est elle l'experte en l'occurrence. Et donc je pense que c'est peut-être son influence sur moi qui a fait que j'ai autant utilisé le vin dans mes livres. Mais c'est vrai qu'il y a, cette en fantasy, il y a souvent cette idée, voilà, c'est plus on est, plus le personnage est éduqué, plus il va boire du vin. Mais moi, j'aime la bière. Voilà, j'aime la bière. Et d'ailleurs, je fais ma propre bière. Je l'ai fait pour Mageborn.
Eh bien, donc, vous retrouverons avec plaisir l'année prochaine, Stéphane Ariane, pour goûter la cuvée Mageborn. Hein. On reviendra avec plaisir. Merci beaucoup pour ce que vous nous avez dit. Merci beaucoup pour avoir écrit cette très belle trilogie. Et donc, à bientôt.
Thank you very much.